Les nouveaux chemins de la connaissance, Raphaël Antoven. Bonsoir.
Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Hey, you know what? Suite et quatrième temps d'une semaine sur l'absurde dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Camus, Beckett et Boris Vian, c'est d'Ionesco, ou encore de Ionesco, c'est selon, que nous allons parler aujourd'hui, d'une œuvre sans message, plus intempestive que d'avant-garde, un exhausteur d'insolites au sein du quotidien, une machine de guerre contre la petite bourgeoisie, l'autre nom de l'institutrice blonde, la cantatrice chauve. Voici ce qui est arrivé. Donc, pour connaître l'anglais, j'ai acheté, il y a 9 ou 10 ans, un manuel de conversation franco-anglaise à l'usage des débutants. Je me mis au travail. Consciencieusement, je copiais, pour les apprendre par cœur, les phrases tirées de mon manuel. En les relisant attentivement, j'appris, non pas l'anglais, mais des vérités surprenantes. Qu'il y a 7 jours dans la semaine, par exemple, ce que je savais d'ailleurs, ou bien que le plancher est en bas, le plafond en haut. Chose que je savais également peut-être, mais à laquelle je n'avais jamais réfléchi sérieusement ou que j'avais oublié et qui m'apparaissait tout à coup aussi stupéfiante qu'indiscutablement vraie. Bonjour Marie-Claude Hubert.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin
Merci.
De la connaissance. C'est à Aix-Marseille que vous enseignez la littérature et que vous exercez vos talents de spécialiste du théâtre et en particulier de Ionesco. Alors je vous dis bonjour, c'est absurde, car ce faisant je ne parle qu'à une chaise vide, comme
ça,
dirait Ionesco.
C'est du Ionesco, effectivement.
Mais oui, c'est du Ionesco, les chaises.
Bien
c'est
sûr.
Pas d'elle qu'on va parler aujourd'hui, mais quand même. Vous n'êtes pas là, donc vous êtes dans un studio à l'autre bout de la France où par la grâce de nos amis techniciens de France Bleu Provence à Marseille, vous êtes en duplex. Alors c'est de la cantatrice chauve, hein, entre autres, qu'on parlera aujourd'hui, pièce absurde s'il en est, paradigme de l'absurde. En tout cas, je voudrais qu'on parte de ça, le premier élément de l'absurde là-dedans, c'est la ténuité des causes, la minceur de l'occasion à la faveur de laquelle Ionesco a eu l'idée d'écrire sa cantatrice, hein, un manuel de conversation franco-anglaise, Marie-Claude Hubert.
Oui, effectivement, c'est une genèse de pièce qui est vraiment très étonnante et très inhabituelle. Comme vous l'avez dit à l'instant dans le texte de Ionesco que vous avez cité, c'est en travaillant sur une méthode à 6000 que Ionesco écrit sa cantatrice. Et comme dans toutes les méthodes à 6000, bien sûr, il y a des personnages qui conversent, les Smith et les Martin. Et Ionesco va continuer l'expérience à la scène, en quelque sorte, en faisant de ces personnages qu'il a connus dans la méthode à 6000 les protagonistes de son théâtre et en leur prêtant des propos tout aussi ridicules, tout aussi burlesques que ceux qui existent dans cette méthode à 6000, puisque vous avez cité tout à l'heure deux phrases de la méthode à 6000, le plancher est en bas, le plafond est en haut, qui vont être reproduites textuellement dans la pièce et qui crée chez le spectateur, évidemment, alors que ce sont des phrases d'une extrême banalité, une impression de profonde étrangeté parce que brusquement, le spectateur ne sait plus exactement ce qu'il entend. Il est très surpris par la banalité des propos.
On est de plein pied dans Ionesco, évidemment, puisque c'est quelqu'un qui, par la grâce d'un style, rend étrange ce qui relève de la tautologie ou de l'évidence. Il y a derrière ça, hein, et on va en parler avec vous, Marie-Claude Hubert, chez Ionesco, l'ambition de réhabiliter une certaine forme d'insolite, en tout cas de rendre insolite ce qui nous semble habituel ou ordinaire.
Je crois effectivement que le terme d'insolite est beaucoup plus approprié que le terme d'absurde pour
parler aussi, allez-y.
De Ionesco, dans la mesure où lui-même a énormément contesté l'étiquette d'absurde qui lui a été associée dès ses premières pièces et particulièrement ensuite en 1961 à partir de la parution du livre de Martin Eslin à New York, qui était critique dramatique à la BBC, et donc le livre a eu immédiatement un très grand succès, mais surtout dans les pays anglo-saxons. Mais en France par contre, où le terme d'absurde est trop lié et est étroitement lié à la philosophie de Sartre et de Camus, le terme apparaît peu pertinent et Ionesco lui-même l'a contesté à maintes reprises dès 1953. Adamov le conteste ensuite l'année suivante en 1954. Beckett lui-même, qui pourtant intervient très rarement, le conteste également. Donc, alors que le terme d'insolite, lui, est beaucoup plus proche de la pensée de Ionesco, pour qui le monde est étrange. Le
alors
monde...
justement, Marie-Claude Duberin, on va y venir au terme d'insolite. Restons un instant sur l'absurde, sur la contestation de ce terme.
Oui.
Après tout, juste une chose. Oui. Après tout, comment après tout, si on réduit ce qui est en général le sens le plus ordinaire, le moins insolite qu'on donne à l'absurde. Si on réduit l'absurde à l'absence de sens, à un non-sens, à une parole qui s'épuise parce qu'elle ne veut rien dire ou parce qu'elle voudrait dire et qu'elle n'y parvient pas, qu'est-ce qui nous interdit à ce titre-là et sous cette définition-là de ranger, je déteste ce mot, mais après tout, pourquoi pas, Ionesco comme Beckett d'ailleurs, dans la catégorie de l'absurde. Après tout, il ne cesse de mettre en scène l'impossibilité de dire comme l'impossibilité de se taire.
Oui, et l'impossibilité de trouver un sens.
Eh oui.
Mais la grande différence, à mon avis, entre Ionesco et Beckett, c'est que...
L'un est roumain, l'autre irlandais.
Oui, d'une part, ils sont originaires de deux pays différents, bilingues tous les deux aussi, hein, oui. Ce qui n'est peut-être pas sans lien avec leur mise en question permanente de la langue et leur méditation permanente sur la langue. Mais la différence au niveau justement de ce rapport à une absurdité du monde, c'est que pour Ionesco, le monde n'est pas vraiment absurde. Il se trouve face à un monde dont il ne comprend pas les règles, dont il ne comprend pas le sens, un monde devant lequel il se sent étranger, un monde qui est étrange, mais il est toujours en quête d'un sens parce que il y a chez Ionesco une espèce d'aspiration vers Dieu, alors que chez Beckett, Dieu n'est là qu'en creux, que comme une absence, que comme ce Godot qui ne vient pas. Et par suite, il y a beaucoup plus d'amertume, de pessimisme, malgré un humour totalement décapant chez Beckett.
Quelle est la bonne voie ? Nous ne pouvons dominer le Créateur, nous ne pouvons pas être plus forts que lui, c'est une aberration. Ayons l'humour ! Nous ne pouvons pas rejeter le monde, alors prendre tout au sérieux, c'est ridicule également. L'esprit de sérieux tue, l'esprit de sérieux prend parti, l'esprit de sérieux fausse. Laissons-nous donc vivre, on ne nous laisse pas vivre. Le suicide est un échec inadmissible, or nous devons réussir. Dire que le monde est absurde, c'est ridicule également. Nous ne sommes pas plus intelligents que la divinité. C'est dire qu'il y a chez Ionesco, comme vous le dites, hein, cet extrait, ce petit texte, cet extrait de son journal en miettes, c'est dire qu'il y a chez Ionesco donc la nostalgie de quelque chose qui relève du divin.
Qui relève du divin et nostalgie d'autant plus forte que Ionesco, à la fin de son adolescence, vers l'âge de 18 ans, alors qu'il vivait en Roumanie, a eu une expérience de lumière, une expérience mystique qu'il raconte à maintes reprises dans ses journaux intimes, qu'il porte à la scène dans une pièce comme Tueur s'engage. Et cette expérience de lumière, une espèce de moment où il s'est senti, il le dit lui-même, comme léger et aérien, et où il a senti, où il a vu toute une espèce de lumière qui l'environnait, cette expérience mystique qu'Eliade, son ami, roumain lui aussi, interprète comme un satori, cette expérience mystique qu'il a vécue toute sa vie avec le désir qu'elle se renouvelle, ce qui ne s'est jamais produit. On a le sentiment que c'est ce désir qui, d'une certaine façon, a motivé son écriture scénique.
Alors, Marie-Claude Hubert, je vous propose qu'on entende un autre extrait du journal En Miettes, lu par Jean-Louis Jacopin, qui est à mes côtés, qui nous accompagne toute cette semaine sur l'absurde. On va entendre un autre extrait du journal En Miettes, dans lequel Ionesco compare l'aquabon, la désespérance, finalement, qui s'empare de lui comme une mauvaise herbe, et à la suite duquel on va entendre un moment de la cantatrice chauve, en vérité, la première, seule, unique occurrence de la cantatrice chauve au sein même de la cantatrice chauve. Et je voudrais avoir votre sentiment sur ce mélange d'aquabonisme et de folie pure chez Ionesco. Écoutez.
J'en aurais pu faire des choses. Il y aurait pu avoir tant de réalisations si la fatigue, une inconcevable, énorme fatigue, ne m'avait accablé depuis environ 15 ans, ou même depuis bien plus longtemps. Une fatigue qui m'a empêché de travailler, mais aussi de me reposer, mais aussi de jouir de la vie et de me réjouir, et aussi de me détendre, et qui m'a empêché aussi de me tourner davantage, comme je l'aurais voulu, vers les autres, au lieu d'être le prisonnier de moi-même. C'est-à-dire de ma fatigue, de ce poids, de cette charge, qui est la charge de moi-même. Comment se tourner vers les autres quand votre moi vous accable ? Aucun médecin sur les 30 ou 40 environ que j'ai consultés n'a su ou n'a pu guérir cette lassitude infinie, parce que, vraisemblablement, aucun d'entre eux n'est allé jusqu'à la source, jusqu'à la cause profonde de ce mal. Je sais de mieux en mieux, moi, quelle est la raison de cet épuisement. C'est le doute. C'est l'éternelle question « à quoi bon ?» enracinée dans mon esprit depuis toujours, que je ne puis déloger. Ah, si l'à quoi bon n'avait germé dans mon âme, puis n'avait poussé, puis n'avait tout recouvert, n'avait étouffé les autres plantes, j'aurais été un autre, comme dit l'autre. C'est bien cette mauvaise herbe qui a absorbé l'eau destinée aux autres plantes favorables, qui les a empêchées de s'épanouir, qui s'est épanouie à leur place.
Peut-être quand même vous réciter un petit poème.
Ma petite mère, vous êtes épouvantablement têtue.
Je vais vous réciter un poème alors, c'est entendu. C'est un poème qui s'intitule Le Feu, en l'honneur du capitaine. Le feu. Les polychondres brillaient dans les bois. Une pierre prit feu, le château prit feu, la forêt prit feu, les hommes prirent feu, les femmes prirent feu, les oiseaux prirent feu, les poissons prirent feu, l'eau prit feu, le ciel prit feu, la cendre prit feu, la fumée prit feu, le feu prit feu, tout prit feu, 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 prit feu.
Ça m'a donné froid dans le dos.
Il y a pourtant une certaine chaleur dans ces vers.
J'ai trouvé ça merveilleux.
Tout de même.
Vous exagérez.
Mais écoutez, c'est vrai, tout ça c'est très subjectif, mais c'est ma conception du monde, mon rêve, mon idéal. Et puis ça me rappelle que je dois partir. Puisque vous n'avez pas l'heure, moi, dans 3 quarts d'heure et 16 minutes exactement, j'ai un incendie à l'autre bout de la ville. Il faut que je me dépêche, bien que je ne sois pas grand-chose.
Qu'est-ce que ce sera ? Un petit feu de cheminée ?
Oh, même pas un feu de paille, une petite brûlure d'estomac.
Alors nous regrettons votre départ.
Vous avez été très amusant. Et grâce à vous, nous avons passé un vrai quart d'heure cartésien.
À propos, et la cantatrice chauve ?
Elle se coiffe toujours de la même façon.
Ah ! Alors ? Au revoir, messieurs, dames.
Bonne chance et bon feu.
Espérons-le pour tout le monde.
Marie-Claude Hubert, la cantatrice chauve, pourquoi apparaît-elle ici ? Pourquoi est-il absurde de se demander pourquoi elle apparaît ? Et d'où vient d'ailleurs l'expression « la cantatrice chauve » ?
Alors d'abord, je voudrais dire que les premiers spectateurs ont été très surpris et très frustrés parce que il n'y a pas de personnage de cantatrice dans la pièce.
Jean-Louis Jacobin, qui est à côté de moi, rit évidemment en pensant à ça. Oui, faut dire, c'est très drôle quand on y pense. Les gens s'attendaient à quelque chose.
Ils s'attendaient à quelque chose et le titre ne tenait pas ses promesses en quelque sorte. Ouais. Donc, parmi les premiers spectateurs à l'époque, en 1950, certains, paraît-il, sortirent absolument furieux, estimant que c'était un canular et que Ionesco se fichait d'eux. Bon, eh bien...
En quoi il n'avait pas tout à fait tort non plus, Marie-Claude ?
Il n'avait pas tout à fait tort, dans la mesure où Ionesco ironise en permanence dans cette pièce. Et ce titre de la cantatrice chauve, en fait, comment l'a-t-il trouvé ? Il le trouve en répétition, ça fait un certain temps qu'il est en train de chercher un titre pour sa pièce, qu'il pense à l'heure anglaise, à Big Ben's Follies, des choses comme ça, mais il ne veut pas évidemment que l'on interprète avec un titre pareil, eh bien, sa pièce comme une critique en quelque sorte de la bourgeoisie anglaise, parce que l'anglais est là à cause de cette méthode assimile et puis de cette méditation sur la langue, mais ça pourrait être n'importe quelle autre langue. Donc, c'est les titres qu'il a trouvés ne lui conviennent pas. Et puis, voilà que, au hasard des répétitions, le pompier, qui a une très très longue tirade, une tirade dans laquelle il y a 20 relatives emboîtées, c'est-à-dire que c'est très difficile à mémoriser, parce que au bout d'un certain temps, il n'y a vraiment plus de point de repère. Et donc, le pompier fait un lapsus, et là où il faut... L'acteur qui joue le pompier fait un lapsus, et là où il aurait dû parler d'une institutrice blonde, il parle d'une cantatrice chauve. Immédiatement, Ionesco l'arrête, absolument ravi, parce qu'il dit « ça y est, je tiens mon titre ». Et ce qui est une façon, évidemment, de suggérer que le langage est un énorme lapsus, hein, et que dans le langage, en fait, tout est toujours quiproquo, que le langage, le sens d'une parole proférée échappe toujours à celui qui parle, et a fortiori à celui qui le reçoit. Et que par suite, comme le langage est le lieu d'une méprise permanente, eh bien, les partenaires qui sont en présence, les interlocuteurs, se méprenant sur le sens des paroles de celui qui est en face, vont être amenés très vite à se disputer. Hein. Et chez Ionesco, en fait, le dialogue se termine toujours par la dispute. Dispute privée dans certaines pièces, dispute politique dans d'autres, mais toujours est-il que la rencontre, c'est la dispute.
La rencontre, c'est la dispute, sauf quand même, pardonnez-moi, mais sauf quand même le fameux épisode des Martins dans La Cantatrice Chauve. Le moment où ils se voient et où ils se reconnaissent, où ils se rencontrent. C'est un couple, il serait peut-être trop long de diffuser cet extrait maintenant. Mais pour mémoire, hein, ce fameux passage dans lequel Monsieur Martin dit « Mais comme c'est curieux, comme c'est étrange, quelle coïncidence, il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part », il le dit à Madame Martin et ils s'extasient l'un l'autre en permanence du fait qu'ils habitent au même endroit, qu'ils ont pris le train à la même heure, au même endroit, dans le même wagon, la chaise d'en face, pour s'apercevoir à la fin qu'en fait ils sont mariés et ça se termine en disant « Ah, darling, c'est donc toi ». De sorte qu'il y a là une rencontre, deux êtres qui se connaissent, hein, Donald, c'est toi, darling, deux êtres qui se connaissent, qui découvrent qu'ils se connaissent et qui restent bons amis pourtant.
Mais deux êtres qui se connaissent et qui en fait ont beaucoup de mal à se reconnaître. Et il y a toute une espèce de pessimisme là dans cette vision du couple où les deux êtres qui sont censés être les plus proches, eh bien, se méconnaissent totalement pendant un certain temps. Et ce n'est qu'au bout d'une série de coïncidences qu'ils tombent dans les bras l'un de l'autre.
Mais alors ils tombent dans les bras l'un de l'autre, ils ne se disputent pas. Non, dans la mise en scène de Jean-Luc Lagarce, que j'ai regardé pour les besoins de cette émission hier, c'est tout à fait étonnant puisque la rencontre, tant qu'ils ne savent pas qu'ils sont mari et femme, les Martins sont pleins de désir l'un pour l'autre. Hein. Je crois qu'ils s'extasient des coïncidences, ils se rapprochent, ils se frottent l'un à l'autre.
Ah, comme c'est curieux, comme c'est étrange et quelle coïncidence.
Et
oui,
voilà.
Ça revient comme un leitmotiv.
Évidemment, oui. Comme un leitmotiv. Et ils se frottent l'un à l'autre. Puis, à un bout d'un moment, ils disent « Ah, Donald, c'est toi, darling ». Et là, en fait, c'est le moment de la grande déception.
Et oui, et oui.
C'est pas absurde, non?
C'est un constat amer sur les relations humaines et sur la relation de couple.
L'autre élément qui est peut-être plus limpide dans le travail de Ionesco, j'allais dire presque plus didactique, alors que Ionesco...
est antididactique.
Justement, il disait qu'une œuvre ne délivrait pas de message, hein, que contrairement à Brecht, lui n'était pas didactique, mais enfin... Il y a quand même, derrière ce dessaisissement du langage, ou cette conformation finalement des individus à des mots qui eux-mêmes sont interchangeables, il y a quand même chez Ionesco à l'œuvre l'idée de une critique violente de la petite bourgeoisie et des idées reçues en général, non?
Oui, critique du conformisme et critique d'une certaine rigidité des comportements.
Mais alors, cette rigidité des comportements qui est à l'œuvre dans la Cantatrice Chauve, est-ce que Ionesco en fait la critique ou est-ce que en la mettant en scène, il essaie d'en repérer l'extraordinaire? Quelle est son intention, si j'ose dire?
À la fois, il en fait la critique, mais surtout, il contemple en quelque sorte ses comportements comme des comportements qui lui apparaissent très étranges et totalement incompréhensibles. Il y a à la fois l'idée que les personnages sont des pantins, sont des mécaniques, sont des marionnettes, qu'ils n'ont pas d'âme, il le dit lui-même. Et en même temps, il est face au spectacle du monde qui lui apparaît dans une totale étrangeté.
Il ne s'agit pas, dit Ionesco, dans mon esprit, d'une satire de la mentalité petite bourgeoise liée à telle ou telle société. Il s'agit surtout d'une sorte de petite bourgeoisie universelle.
Oui, universelle, bien sûr, et pas anglaise, oui.
Et pas anglaise. Alors il dit, le petit bourgeois étant l'homme des idées reçues, des slogans, le conformisme de partout. Ce conformisme, bien sûr, c'est son langage automatique qui le révèle. Les Smith, les Martins, qui sont les personnages de La Cantatrice Chauve, ne savent plus parler parce qu'ils ne savent plus penser. Ils ne savent plus penser parce qu'ils ne savent plus s'émouvoir. N'ont plus de passion, ils ne savent plus être, ils peuvent devenir n'importe quoi car n'étant pas, ils ne sont que les autres, le monde de l'impersonnel, ils sont interchangeables.
« Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 300, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre.
Marie-Claude Hubert est notre invitée aujourd'hui, dans l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, dans le cadre d'une semaine sur l'absurde essai de Ionesco que nous parlons aujourd'hui, et de sa cantatrice Chauve. D'ailleurs, on dit d'Ionesco ou de Ionesco, Marie-Claude Hubert?
On dit les deux, en fait.
Ah, les deux se disent. Bon, d'accord, très bien. Revenons-en à ce que je vous disais tout à l'heure. La chanson qu'on entend, évidemment, c'est Les Bourgeois de Brel.
Oui, elle aurait ravi Ionesco.
Mais oui, parce que à la fin de la chanson, les rôles sont inversés.
Comme
dans la cantatrice Chauve. Ceux qui stigmatisent les bourgeois au début se retrouvent en situation de bourgeois à l'hôtel des Trois Faisans.
Bien sûr.
De sorte qu'il y a quelque chose de réversible, finalement, chez ces êtres intemporels. Écoutons la fin de la chanson.
Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière, en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux, et plus ça devient...
Voilà, Marie-Claude Hubert, étonnante fin de chanson où les rôles sont inversés, exactement comme dans la cantatrice Chauve.
Hein. Exactement comme dans la cantatrice Chauve, puisqu'à la fin de la pièce, les Martins prennent la place des Smith et se mettent exactement à prononcer les mêmes paroles, à prendre les mêmes attitudes.
Mais alors, est-ce qu'on n'est pas là dans une démarche, dans une ambition malgré tout didactique? Est-ce qu'il n'y a pas l'intention d'édifier son public, en somme?
L'intention de montrer que les comportements sont partout identiques?
Mais c'est déjà une intention, si j'ose dire. Ça le met en position non pas brechtienne,
de satire.
Un peu quand même.
De satire des comportements convenus et des automatismes. Et il n'y a rien qui se mette plus en colère Ionesco que les automatismes de la pensée, dans la mesure où, dans ses pièces politiques, il montrera comment ces automatismes mènent au pire. Dans Rhinocéros, comment évidemment la rhinocérite va s'emparer de tous les habitants de la ville et petit à petit faire en sorte que les hommes ne sont plus des hommes mais qu'ils sont des monstres.
Mais alors cette critique qui est la sienne des automatismes, est-ce qu'elle va de pair avec une conception de l'art finalement assez qu'ancienne du fait que l'idée ne précède pas l'écriture mais survienne, les idées surviennent au fil de l'écriture, à même la création. Ionesco dit « Les lois théâtrales que je crois découvrir sont provisoires, mouvantes. Elles ne précèdent pas, elles suivent l'émotion de la création artistique. » C'est dans son discours sur l'avant-garde qu'on trouve dans Note et Contre-Note.
Oui, discours sur l'avant-garde qu'il prononce aux entretiens d'Helsinki.
Ouais.
Et je crois effectivement que la sensibilité d'Ionesco est là, à savoir que c'est un artiste qui était très inspiré, si bien que certaines pièces lui venaient à l'esprit si vite qu'il les a dictées, parce que la main n'était pas capable d'écrire assez vite ce qui lui venait à l'esprit.
C'est dans le journal de Jules Renard, d'ailleurs, que Jules Renard raconte que son stylo n'arrive pas à suivre sa pensée et que du coup la fin de sa phrase n'est pas du tout conforme à ce que le début avait l'intention de dire.
Oui, bah c'est exactement le cas d'Ionesco aussi, qui imaginait si vite et qui imaginait dans l'espace. C'est ça qui est absolument extraordinaire et c'est pour ça que c'est un immense auteur dramatique, à savoir que lorsque une pièce lui venait à l'esprit, il voyait sur ce qu'il appelait son plateau intérieur les personnages entrer par telle porte, venir au milieu du plateau, sortir par telle autre, prononcer telle phrase à tel endroit de la scène. Et tout cela, à mesure, il le dictait parce que l'inspiration venait très très vite.
Vous dites il voyait, il se représentait les choses. Comment le décrit-il lui-même ?
Il me disait que lorsque, justement, une pièce lui venait à l'esprit, en même temps qu'il dictait, il voyait ce qui se passait sur la scène, dans ce qu'il appelait son plateau intérieur, c'est-à-dire dans sa tête, dans son imagination. Mais c'est-à-dire que d'emblée, pour lui, le verbe est mis en espace.
D'emblée, le verbe est mis en espace. On va l'écouter, tiens, Ionesco, lui-même, parlant de ses rêves et du fait que, bien souvent, pour écrire ses pièces, il recopie ses rêves avec vous, Marie-Claude Hubert.
Dans la plupart de mes pièces, il y a une sorte de visualisation des angoisses. Pour moi, l'image est un moyen d'expression. C'est un langage, comme on dit maintenant. Ce sont des images que souvent j'ai vues avant de les écrire, puisque ce sont des images de rêve. Dans Amédée, où commence à s'en débarrasser, il y a un cadavre qui grandit. Il était dans cet appartement que j'habitais, rue Claude Terrasse. Il y avait un long couloir. Et dans ce long couloir, je voyais, la nuit, dans mon cauchemar, un cadavre grandir. Le tueur s'engage, je l'ai rêvé. Je crois donc me souvenir d'une rue. Enfin, mais c'était une demi-rue parce qu'il y avait les maisons d'un côté et de l'autre, il y avait des champs labourés et un soleil très, très rouge, un crépuscule, et j'étais à la recherche d'un assassin. Dans Jacques ou la soumission, il y a une histoire où le personnage est un cheval, c'est un étalon qui court, alors que je ne connaissais pas la psychanalyse. Dans La cantatrice chaude, c'est très bizarre. Le procédé était différent, mais j'ai essayé de me mettre dans un état d'allogisme, d'inintelligence, enfin d'avoir la sottise dans mes personnages. Mais ce n'est peut-être pas le mot qu'il faut. Dans un état de non-sens.
Il dit non-sense avec un accent anglais pour désigner l'allogisme, l'inintelligence qui qualifie son état. On pourrait peut-être penser à l'hébétude d'un homme ivre pour écrire, non, Marie-Claude Hubert ?
L'hébétude, je ne sais pas, parce que il me disait qu'il était dans ces cas-là dans un état de surexcitation lorsque lui venait une scène.
Mais cette surexcitation, je parle d'hébétude ici parce que, après tout, l'ivresse dont il parle lui-même oui. fréquemment, dont bien il sûr. Fait un des éléments de sa création, donc ça bien n'est pas sûr. Trahir un secret ou être indiscret que de la bien que sûr. De la mentionner, mais l'ivresse dont il était familier a cette propriété bien connue de faire en sorte qu'on s'émerveille de ce qui laisse en général les autres indifférents. On s'extasie de choses qui semblent banales au reste du monde. Clément Rosset, parlant de l'ivresse, en vient à citer Angelus Silesius, hein. Il dit « La rose est sans pourquoi, fleurit parce qu'elle fleurit, n'a souci d'elle-même, ne désire être vue. » En somme, l'expérience ontologique, la bizarrerie des choses, de leur présence, de leur existence, le sentiment, comme il dit, que tout est là tout le temps et que c'est épuisant, ce sentiment-là, c'est le sentiment, le nonsense ou l'allogisme, c'est le sentiment d'un homme ivre.
Oui, bien sûr. Un monde qui flotte, en quelque sorte. C'est souvent une image qui est susceptible de rendre compte de son théâtre. Un monde où les choses ne sont pas fixes et qui est donné à voir différemment, sans doute, pour chaque individu.
En somme, l'absurde, si j'ose dire, serait, mais on sent bien que le mot est impropre et moins que, en tout cas, ne convient moins que le terme d'insolite, l'absurde serait d'enfoncer des portes ouvertes, hein, le plafond est en haut, le plancher est en bas, d'enfoncer des portes ouvertes, et plus on les enfonce, plus on donne au réel un caractère d'irréalité.
Et en même temps, plus on donne le vertige.
Pourquoi vous parleriez de vertige ici à propos de Ionesco ?
Parce que il se trouve justement confronté à un monde dans lequel il n'y a pas de certitude et donc dans lequel tout chancelle.
Donc je voudrais qu'on entende, Marie-Claude Hubert, un texte donc de Freud accompagné d'un commentaire de Clément Rosset qui dit assez cette émotion face au réel, cette surprise face à ce à quoi on peut s'attendre, pourtant cette stupéfaction qui s'empare de Freud à l'instant où il visite l'Acropole. Écoutez.
Homme mûr déjà, je me trouvais pour la première fois à Athènes sur la colline de l'Acropole, parmi les ruines des temples, regardant au loin la mer bleue. À ma joie se mêlait un sentiment d'étonnement qui me poussait à me dire « Ainsi les choses sont vraiment telles qu'on nous l'apprenait à l'école. Faut-il qu'alors ma foi en ce que j'entendais ait été sans profondeur ni force pour que je puisse aujourd'hui être si surpris ?» La surprise dont parle ici Freud est à rapprocher de celle qui saisit les héros du théâtre de Marivaux. Elle accompagne, dans les deux cas, la saisie directe du réel, avec toutefois cette différence que l'avènement du réel intervient tantôt à la suite d'un retard de la représentation par rapport au réel, cas général illustré par Marivaux, tantôt à la suite d'un retard du réel par rapport à la représentation, cas illustré par Freud. À une telle représentation anticipée, il manque, pour être pleinement convaincante, ce qu'on peut appeler la force du réel, qu'aucune représentation ne peut rendre à elle seule. D'où cet étrange doute à l'endroit de ce qu'on a appris et que l'on croyait tenir pour assuré. Doute dont on ne prend d'ailleurs que tardivement conscience, précisément à l'occasion de la saisie du réel auquel on s'était pourtant préparé. La confirmation d'une représentation par le réel lui-même ne devrait apparemment pas surprendre l'attente, mais au contraire la combler. Si elle la surprend, et l'expérience apprend qu'il en va généralement ainsi, c'est que le réel auquel on est confronté est riche de quelque chose à quoi aucun savoir ne peut préparer, qu'aucune représentation ne peut figurer à l'avance. Précisément, sa qualité d'être réel, le mystère de sa présence.
Marie-Claude Hubert, voilà donc un texte de Freud commenté par Clément Rosset dans ses principes de sagesse et de folie qui délivre peut-être quelque chose qui ressemble à l'expérience qu'on fait dans les pièces de Ionesco.
Oui, effectivement, tout cet étonnement dont fait part Freud lorsqu'il se trouve devant l'Acropole, eh bien cet étonnement, il est en permanence au centre des visions d'Ionesco. Et on peut dire que tout son théâtre, c'est un questionnement sur notre rapport au réel. En quelque sorte, tout son théâtre, c'est une espèce de phénoménologie de la perception. C'est-à-dire, dans ce que nous percevons, qu'est-ce que c'est qui est réel ? Et c'est une question qui est véritablement presque explicite dans une pièce comme Les Chaises, où il met en scène deux vieux qui sont parvenus au terme de leur existence et qui ont échafaudé une espèce de délire de grandeur, de délire à deux, dans lequel il s'imagine que le vieux a un message à donner à l'humanité avant de mourir, et que donc il a invité tout un tas de gens qui vont écouter ce message. Les invités arrivent, on entend leur coup de sonnette, on entend, comme les deux vieux habitent sur une maison qui est une île, le bruit des rames, sur l'eau, et chaque fois qu'il y a un coup de sonnette, les vieux vont chercher leurs invités, amènent une chaise sur la scène, et parlent avec cette chaise. Mais il n'y a personne. Ces invités sont apparemment hallucinés par les vieux. Mais ce qui est le plus étrange, c'est qu'à la fin de la pièce, quand les deux vieux ont disparu, quand ils se sont jetés par les fenêtres pour se suicider, le spectateur entend encore, alors que les deux vieux ne sont plus là, les invités, le bruit des chaises, des chuchotements, des bruits de toux, etc. Et donc, la question que Ionesco suscite chez le spectateur, c'est, mais dans tout cela, qu'est-ce que c'est qui est réel ? Est-ce que les vieux hallucinent ? Est-ce que nous, spectateurs, nous ne voyons pas ? En quelque sorte, du monde extérieur, que connaissons-nous ? Qu'est-ce que c'est qui est réel ? Qu'est-ce que c'est qui n'existe en fait que dans notre subjectivité ? Et tout au long de son théâtre, c'est cette question que pose Ionesco. Dans Amédée, où comment s'en débarrasser, la pièce à laquelle, dans l'interview que vous avez fait passer, à laquelle il faisait allusion, eh bien, ce cadavre qui grandit, qui est très mystérieux, intrigue énormément le spectateur, qui finit par se demander, mais qu'est-ce que c'est que la réalité ? Qu'est-ce que c'est que nous pouvons comprendre du monde réel ? nous n'en comprenons que des bribes, et peut-être ne comprenons-nous pas les mêmes choses les uns et les autres.
Mon fils, tu as déjà 60 ans. Ta vieille maman sucre les fraises. On ne veut plus d'elle au trapèze. À toi de travailler, il serait temps. Moi, je veux jouer de l'hélicoptère. Dans notre petit cirque ambulant, il y a déjà un hélicon. Choisis donc plutôt d'être clown ou acrobate comme ta maman. Non, je jouais de l'hélicon. N'en parlons plus, mauvaise tête. Tiens, va donc voir la femme trompe.
Quand j'arrive à me détacher du monde et à pouvoir le regarder, il me paraît comique dans son invraisemblance. Et puis l'absurde, c'est en quelque sorte à l'intérieur de l'existence qu'on le place. Or pour moi, à l'intérieur de l'existence, tout est logique. Il n'y a pas d'absurde. C'est le fait d'être, d'exister, qui est étonnant.
Peu m'importe les trombones, je veux jouer de l'hélicoptère.
Marie-Claude Hubert est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce jeudi pour y parler de Ionesco, en particulier de sa cantatrice Chaud, ce qui ne nous empêche pas de parler des chaises ou de parler également de la leçon, de parler en général de toutes ces pièces d'ailleurs qu'on associe à l'absurde, plus particulièrement d'ailleurs la cantatrice Chaud et la leçon, ces pièces qu'on associe à l'absurde, étiquette que, on a bien compris, hein, Ionesco refusait qu'on la lui applique. Marie-Claude Hubert, revenons un instant sur ce fait d'exister. Cette surprise. Ionesco donc refuse d'être étiqueté auteur absurde ou auteur de l'absurde dans la mesure où l'absurde se situe à l'intérieur de l'existence. Or pour lui, à l'intérieur de l'existence, tout est logique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sortons de la phénoménologie de la perception pour entrer dans une conscience là.
Tout à la fois est logique et illogique. Et Ionesco était très influencé par la théorie des contraires de Lupasco, qui était romain comme lui. Et il avait le sentiment que justement, les choses, par moment, selon la façon dont nous les regardons, nous apparaissent logiques, et puis par moment, au contraire, totalement saugrenues, totalement insolites, totalement étranges. Il y a toujours cette espèce de double mouvement.
De double mouvement, de logique et d'illogique. Il parle d'allogisme. Alors comment comprendre allogisme ici?
C'est-à-dire qu'on se situe hors de toute logique. Que je peux à la fois affirmer que A est égal à B, en même temps que je peux affirmer que A est différent de B. Et qu'en quelque sorte, c'est comme si l'inconscient coexistait avec le conscient. Puisque vous savez que dans l'inconscient, la contradiction... Il n'y a pas de contradiction. Deux idées contradictoires peuvent très bien coexister sans pour autant se nier l'une l'autre. On a l'impression que chez Ionesco, il y a ce fonctionnement-là.
Alors
cette présence
allez-y.
En même temps du conscient et de l'inconscient.
Présence simultanée du conscient et de l'inconscient, présence également simultanée de la syntaxe et d'une folie langagière, ou en tout cas, dans la cantatrice Chauve, il chemine jusqu'à la folie du langage, jusqu'à ce que Deleuze appellerait de la matière verbale. On va entendre avec vous, Marie-Claude Hubert, la toute fin, justement, de la cantatrice Chauve, où l'on voit que non seulement les mots perdent leur sens, mais ils perdent également leur son. Enfin, la fin, c'est presque comme du Joyce de Finnegan's Wake. On est chez les fous, là encore.
On ne fait pas briller ses lunettes avec du cirage noir.
Oui, mais avec l'argent, on peut acheter tout ce qu'on veut.
J'aime mieux tuer un lapin que de chanter dans le jardin.
Cacatoès, 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 cacatoès.
Quel cacate, 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 quel cacate.
Quelle cascade de cacade, 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 quelle cascade de cacade.
Les chiens ont des puces, les chiens ont des puces.
Cactus, coccyx, cocu, cocardard, cochon. En caqueur, tu nous en caques?
J'aime mieux pondre un œuf que de voler un bœuf.
Ah, oh. Laissez-moi grincer des dents.
Caïman.
Allons gifler Ulysse.
Je m'en vais habiter ma quinga dans mes cacaouillers.
Les cacaoyers, des cacaoyères, donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les cacaoyers, des cacaoyères, donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les cacaoyers, des cacaoyères, donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les souris ont des sourcils, les sourcils n'ont pas de souris. Touche pas ma babouche.
Bouge pas la babouche.
Touche la mouche, mouche pas la touche.
La mouche bouge. Mouche ta bouche.
Mouche de chasse mouche, mouche de chasse mouche.
Escarmoucheur, escarmouché.
Scaramouche. Ça te touche.
T'en as une couche.
Tu m'en bouches.
Ça t'y touche, touche ma cartouche. Ne touchez pas, elle est brisée.
Sully.
Prud'homme.
François.
Copé.
Copé Sully.
Prud'homme François.
Espèce de glouglouteur, espèce de glouglouteuse.
Mariette, qu'une marmite.
Krishnamurti, Krishnamurti, Krishnamurti.
Le pape dérape, le pape n'a pas de soupape, la soupape a un pape.
Bazar, Balzac, Bazaine.
Bizarre, Beaux-Arts, baiser.
A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U-I.
B, C, D, F, G, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Z. De l'ail à l'eau, du lait à l'ail.
C'est.
Pas.
Par.
Là.
C'est.
Par.
I.
C'est.
C'est
pas par là.
C'est par ici.
C'est pas par là. C'est par ici.
C'est pas par là.
C'est par
là.
C'est par
ici.
C'est par là. C'est par là.
I don't know, but it's been said.
I don't know, but it's been said.
We're off to war, we're not yet dead.
We're off to war, we're not yet dead.
Become a knight and you'll go far.
Become a knight and you'll go far.
In suspenders and a bra.
In suspenders and a bra.
Marie-Claude Hubert, juste un point commun peut-être avec Beckett. Chez Beckett comme chez Ionesco, on a l'impression que les personnages n'existent que dans la mesure des paroles qu'ils prononcent. Chez Beckett, hein, c'est très frappant, ils se présentent et ils existent à l'instant où ils se présentent et ils n'existent que dans la stricte mesure finalement des mots qu'ils sont capables de dire. De sorte que chez Ionesco comme chez Beckett, les personnages sont interchangeables à mesure qu'ils changent de discours. Qu'advient-il évidemment de ces personnages à l'instant où le discours perd de son sens? Que reste-t-il d'un sujet quand les mots qu'ils prononcent n'ont plus aucun sens mais deviennent pure matière verbale comme cacatoès par exemple?
Oui, là, on est en présence de... Enfin, c'est un moment...
C'est la fin de la cantatrice, hein.
C'est la fin de la cantatrice. C'est à la fois très ludique, parce que c'est un jeu sur les sonorités permanents, et c'est en même temps très, très angoissant, parce qu'en même temps, les personnages sont prêts à s'entretuer. Et si ce n'était le final, en quelque sorte, le noir qui s'instaure, et puis ensuite tout recommence, si ce n'était ce final, on a le sentiment qu'on est près du meurtre, et que la colère est telle chez ces personnages qui se battent à coups de mots, qu'on va vers le pire.
Alors, on va vers le pire. D'ailleurs, on va vers le pire. On échappe au pire dans La Cantatrice Chauve. En revanche, on n'y échappe pas dans La Leçon. Pièce dont bien des professeurs, d'ailleurs, que bien des professeurs brandissent en général à un moment de l'année comme un fantasme, puisque c'est quand même l'histoire d'un professeur qui finit par tuer son élève. Alors, c'est intéressant d'ailleurs parce que l'élève que j'étais a le souvenir de professeurs qui disaient « Lisez La Leçon, lisez La Leçon, vous saurez le fond de ma pensée. » Et en même temps, quand on lit La Leçon, on se dit que l'élève est innocent et que c'est le professeur qui est meurtrier profondément depuis le début.
D'autant que le professeur n'est pas seulement meurtrier, il est violeur aussi. Il viole l'élève, puis il la tue. Oui. C'est un professeur terriblement inquiétant.
Tout en la traitant de salope, oui, effectivement.
Voilà, c'est un professeur terrible. Et c'est une image, en quelque sorte, du savoir que Ionesco d'abord ridiculise parce que... dans la mesure où l'élève ne suit pas exactement ce que le professeur veut lui apprendre, très vite, il s'énerve, son langage dérape et il est amené à dire des choses complètement loufoques, complètement idiotes, complètement bizarres. Et puis ensuite, en quelque sorte, il ne se contrôle plus et c'est à ce moment-là qu'il va violer l'élève et la tuer. Et ce qui est le plus ahurissant, c'est que... Lorsque la bonne sort le cadavre de la jeune fille de scène, elle nous apprend que le professeur en est à son 40e assassinat depuis le début de la journée, et voici qu'arrive la 41e élève, et que la pièce recommence en quelque sorte avec cette nouvelle élève en tout point identique à la précédente, et le professeur qui prononce exactement les mêmes paroles. Mais donc, à travers cette espèce de grand pervers qu'est le professeur, c'est tout l'automatisme de répétition freudien, en quelque sorte, que toute la compulsion à la répétition qu'Ionesco porte à la scène. C'est un grand fou, véritablement. C'est un grand fou, et Ionesco assimile ici le désir de savoir et la paranoïa.
Il dit l'arithmétique mène à la philologie. Enfin, c'est la bonne qui le dit, hein, et la philologie
mène au pire.
Mène au crime.
Oui, et au pire aussi.
Au crime et au pire. On croirait entendre Monsieur Purgon, vous vous souvenez, dans Le Malade Imaginaire, qui dit « Vous irez de la bradypepsie dans la dyspepsie, de la dyspepsie dans l'apepsie, apepsie, dysenterie, lianterie, hydropisie dans la privation de la vie où vous aura conduit votre folie. »
Ah, ils sont aussi redoutables l'un que l'autre, ça c'est sûr, oui.
Alors, ils sont aussi redoutables l'un que l'autre, dans la mesure, là encore, où le langage devient normatif. Finalement, chez Ionesco, de la même façon que les individus s'estompent à mesure que le langage perd de son sens, tant que le langage est présent, si j'ose dire, il fait office de... Il est créateur, législateur, normatif. En somme, Ionesco croit à la puissance du verbe, même s'il dit que les mots empêchent de penser ou voilent le réel.
Oui, dans la mesure d'ailleurs où dans la cantatrice chauve, le seul personnage qui ne soit pas antipathique, si je puis dire, c'est la bonne.
Sherlock Holmes.
Oui, voilà. Et la bonne, c'est elle qui dit un poème.
C'est la seule qui dit un poème, effectivement. Et l'autre élément de la cantatrice chauve, sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté, c'est le comique. Ionesco dit lui-même, d'ailleurs, la cantatrice chauve est la seule de mes pièces considérée par la critique comme purement comique, même si, dit-il, là encore, le comique me semble être l'expression de l'insolite qui surgit du plus quelconque quotidien. Il dit, le comique, c'est de l'insolite pur. Rien ne me paraît plus surprenant que le banal. Le surréel est là, à la portée de nos mains, dans le bavardage de tous les jours. Mais est-ce que le comique chez Ionesco, Marie-Claude Hubert, ne vient pas également de ce que vous avez dit, de la répétition, et pour reprendre une image qui est de Bergson, de l'imposition du mécanique sur du vivant?
Oui, d'ailleurs, Ionesco lui-même reprend à plusieurs reprises cette formule de Bergson, disant que ces personnages, justement, sont des mécaniques plaquées sur du vivant, et que selon comment on présente les choses, c'est comique ou ça peut devenir tragique. Mais... Et qu'il est toujours à la limite, justement, du comique et du tragique. Et d'ailleurs, pour la cantatrice chauve, il dit, je pensais avoir écrit la tragédie du langage et qu'elle n'a pas été mon étonnement aux premières réactions des spectateurs qui ont éclaté de rire du début à la fin de la pièce. Oui, donc le comique et le tragique, chez lui, sont toujours très très proches.
La cantatrice chauve, il l'avait sous-titré anti-pièce. La leçon, par exemple, il en parle comme d'un drame comique, ce qui n'est pas du tout un oxymore, ce qui veut dire exactement ce que ça veut dire.
Exactement. Et ensuite, les chaises, il les appellera farce tragique.
Et désignant aussi, oui c'est ça, et dans la leçon, désignant aussi la possibilité d'un passage du burlesque au tragique qui doit se faire insensiblement, sans que le public s'en aperçoive.
Oui, il dit juste un coup de pouce et on passe du comique au tragique et du tragique au comique. Et Jean-Louis Barrault, qui a été le premier à créer Rhinocéros, disait c'est les Marx Brothers chez Kafka. Ça, je trouve que ça rend compte vraiment de cette proximité permanente chez Ionesco du comique et du tragique. On rit et en même temps, on se rend compte qu'on est face à des choses terribles.
En somme, comique et tragique sont réversibles. Est-ce qu'on rit parce qu'on est face à des choses terribles ou est-ce qu'on pleure parce qu'on est face à des choses drôles?
Justement, on rit et on pleure en même temps presque.
Oui, enfin, on pourrait pleurer de rire ou rire de pleurer.
Oui, voilà.
Restons là-dessus. Le seul objet de cette émission, Marie-Claude Hubert, était d'inviter nos auditeurs à lire la cantatrice chauve. Un dernier mot, il est de Ionesco, voici ce qu'il dit. Le comique dans mes pièces n'est souvent qu'une étape de la construction dramatique et même un moyen de construire la pièce. Il devient de plus en plus un outil pour faire contrepoint avec le drame. C'est visible, je crois, dans la leçon. Je crois que le comique, ajoute-t-il, est une autre face du tragique. Un grand merci Marie-Claude Hubert d'être venue nous voir, si j'ose dire, depuis Marseille où vous êtes en duplex avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste de Ionesco, ça on l'avait compris. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de Eugène Ionesco, paru au Seuil en 1990. Eugène Ionesco, c'est le titre de votre livre. Et ça n'est pas l'individu lui-même, encore qu'un tel malentendu lui plairait probablement. Je rappelle d'ailleurs qu'on peut voir deux spectacles de Ionesco au Théâtre de la Huchette à Paris, 23 rue de la Huchette, depuis le 16 février 1950. Ce qui lui plairait également. À 19h, la cantatrice chauve, mise en scène de Nicolas Bataille. À 20h, la leçon, une mise en scène de Marcel Cuvelier, du lundi au samedi. Demain, pour clore cette semaine consacrée à l'absurde, je recevrai Jean-Pierre Morel, qui est professeur émérite de littérature comparée à la Sorbonne Nouvelle et qui viendra parler de Kafka. Un grand merci aux services techniques de France Bleu Provence à Marseille qui nous ont permis de réaliser ce duplex avec vous. Et à Paris, à la technique aujourd'hui, Olivia Branger, à la réalisation Christine Digère. Et au travail de fond, Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Jennifer Murzo, Igor Kortelitsa, France Culture, il est 17h50 et sous la voix de Jacques Higelin, on retrouve Albert Jacquard.
Préparant les chroniques de cette semaine, j'ai par hasard retrouvé le brouillon d'un article paru à l'occasion de l'arrivée du deuxième millénaire. Je faisais à ce moment-là le point sur les dangers qui menaçaient l'humanité. 8 ans plus tard, je me suis amusé à comparer ce que j'avais annoncé il y a 8 ans et ce qui s'était réalisé depuis. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'histoire ne s'est guère ralentie depuis 8 ans. Nous avons tous l'impression d'être emportés dans un maelstrom de bouleversements sur lequel nous n'avons guère de prise. Il est donc utile de réfléchir sur ce qu'a apporté cette dernière écaille de temps longue de 8 années. Passons en revue les principaux dangers auxquels notre humanité doit faire face, j'avais dans ce brouillon initial rappelé une fois de plus la présence d'un arsenal nucléaire guerrier, capable de mettre fin en quelques semaines à la présence de notre espèce sur la Terre. Cet objectif, bien rarement évoqué, est le seul cohérent avec le pouvoir bien réel de destruction de ces engins, de ces fusées, de ces bombes. Le recours de nos dirigeants au concept de dissuasion ramène le schéma logique d'un éventuel conflit à un jeu de poker menteur. Il ne peut rassurer, car il ne décrit qu'un équilibre instable, donc provisoire. Or, l'unité de temps lorsque la survie de l'espèce est en jeu n'est pas le siècle ou le millénaire. Il ne s'agit pas de faire durer l'humanité de 2000 ans de plus. Il s'agit de lui donner la possibilité de réaliser toutes ses promesses, ce qui prendra des centaines de milliers d'années ou des millions d'années. La seule issue permettant à l'humanité d'échapper au piège nucléaire dans lequel elle s'est enfermée ne peut être qu'une élimination générale et rapide de cet arsenal. Cette évidence est difficilement réfutable. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, le nouveau président des États-Unis a déclaré qu'il était d'accord avec cette vision-là. Contrairement à tout ce qui était dit pendant ces 8 années, ceux qui préconisent un retour à la suppression des bombes nucléaires n'étaient pas de doux utopistes, ils étaient finalement des réalistes. Que Barack Obama, dès le début de son parcours, s'aperçoive que c'est par là qu'il faut commencer, cela montre bien que diffuser de temps en temps des opinions qui sont à l'opposé de l'opinion habituelle n'est pas un temps perdu.
À retrouver sur Radio France.
Demain sur France Musique à 10h.
Le matin des musiciens.
Jean-Pierre Derrien proposera une écoute du 5e concerto pour piano et orchestre L'Empereur de Beethoven.
Avec la participation du pianiste François-Frédéric Guy.
Plus d'informations, francemusique.com.
Demain sur France Inter.
Le fou du roi.
Bernard Lavilliers sera l'invité de Stéphane Bern qui, entouré de sa joyeuse équipe, lui offrira un billet d'humour.
Un festival de rire, mais aussi des découvertes musicales à savourer sans modération.
Retrouvez-les dès 11h.
En savoir plus,
franceinter.com.
Et demain dans le Move, à midi,
Francosonic.
2 heures pour découvrir les nouveaux talents de la scène rock française.
Des interviews exclusives.
Des acoustiques.
Et une playlist entièrement dédiée aux artistes francophones d'aujourd'hui.
Et de demain.
Plus d'infos.
Lemove.com.
Radio France.
Radio France.
On ne se quitte plus. France Culture présente La Sicilienne, un film de Marco Amenta, sélection au Festival de Rome 2008. Pour venger la mort de son père et de son frère, Rita, jeune fille de 17 ans de famille mafieuse, se présente un matin de novembre 1991 au bureau du procureur de Palerme pour rompre la loi du silence. Dès lors, ses jours sont comptés. La Sicilienne au cinéma le 13 mai, un film France Culture. Dans la perspective des élections européennes du 7 juin 2009, France Culture est aux quatre coins de l'Europe chaque semaine du mois de mai. Après Barcelone, deuxième étape, Budapest en Hongrie. Jeudi 14 mai, 18h20, en toute franchise par Hubert Huertas. Vendredi 15 mai, toute la journée, les journaux de la rédaction. Samedi 16 mai à 11h, le rendez-vous des politiques par Dominique Rousset avec deux invités en débat, Zita Gourmay, députée européenne hongroise PSE, Jean-Luc Benamias, député européen tête de liste du Modem pour la région Sud-Est. Enfin, du 9 mai au 8 juin, retrouvez en kiosque la grande enquête quotidienne du journal La Croix, Quoi de neuf dans la vieille Europe, pour découvrir des initiatives originales et des projets novateurs. Élections européennes du 7 juin 2009, France Culture aux quatre coins de l'Europe chaque semaine du mois de mai. Tout savoir, tout écouter, franceculture.com. Culture, partenaire du 62e Festival de Cannes. Retrouvez les matins, tout arrive, le rendez-vous, les nouveaux samedis, en direct du Majestic Barrière pour suivre les événements de la Croisette et du Palais des Festivals. 62e Festival de Cannes du 13 au 24 mai 2009 avec France Culture.
Vous êtes sur France Culture, c'est l'heure maintenant de retrouver le nouveau rendez-vous de Laurent Goumard. Bonjour Laurent.